Les enfants, vous êtes encore bienvenus avec nous un petit moment parce qu'on va raconter une histoire qui est une histoire pour les petits et pour les grands. Donc elle va pour vous aussi. Mais avant ça, j'ai quelques questions à vous poser. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fausses réponses à ces questions. Donc vous pouvez répondre, il n'y a aucune chance que vous vous trompiez. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui nous parle de croissance. Alors depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, dans notre église, on grandit, on est de plus en plus nombreux. J'ai fait un décompte cet été, combien d'enfants, vous étiez inscrits sur nos listes, à la garderie, aux explorateurs, au KPJ et même jusqu'au KT, alors on va dire enfants et ados. Eh bien, on dépasse les 80 enfants. Alors c'est chouette, vous êtes très nombreux, c'est super, ça nous fait plaisir. Mais nous, ça nous fait réfléchir, ben voilà, on grandit, c'est super. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on grandisse comme ça? On veut maintenir ça. Et puis, comment accompagner cette croissance? Alors, à partir d'aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, pour les grands, nous, on aura 7 thématiques sur la croissance, 7 prédications. Dans le Fratnews, c'était écrit 6, mais en fait, c'est 7. Donc, même la longueur de la série grandit. Donc, tout grandit dans notre église. Mais pour commencer, alors, j'ai une petite question pour les enfants qui concerne Jésus. Est-ce que vous savez, les enfants, est-ce que vous sauriez dire, et je vous rappelle qu'il n'y a pas de fausse réponse, quel âge a Jésus? T'as une idée? Infini. Infini. Il marche pas ou bien? Ah voilà, tu veux redire dans le micro?
Infini.
Infini. Alors ça, c'est déjà une très bonne réponse. Il a un âge infini. Qui aurait dit autre chose? Il y a plusieurs réponses justes, en fait.
1000.
1000, ouais, donc aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez d'autres idées? T'as levé la main? Non? Plus maintenant? Ah, alors je vais un peu jusque là-bas. Alors, dis-moi, tu penses quoi?
2019 ans.
2019 ans, ça c'est un calcul très précis d'un futur historien. Effectivement. Vous avez d'autres idées? Alors, je ne vais pas tout de suite répondre à cette question. Je vais vous poser une autre question d'abord, qui est beaucoup plus simple. Maïka, tu peux nous dire quel âge tu as?
5 ans.
5 ans. Est-ce que vous pensez que Jésus, il a eu 5 ans un jour? Oui? Oui? T'aurais dit quoi, toi?
Bah oui.
Bah oui. C'est vrai. Et puis, toi, t'as quel âge, Alice?
8 ans.
8 ans. Est-ce que Jésus, il a eu 8 ans un jour? Oui, certainement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 12 ans ici?
Ouais.
Ah, oh. Ah, y en a un qui est content d'avoir 12 ans, en tout cas. Alors, comment tu t'appelles, toi, qui a 12 ans?
Marie.
Marie, elle a 12 ans. Et toi, tu t'appelles?
Joachim.
Joachim, il a 12 ans. Il y en a d'autres qui ont 12 ans? Toi aussi.
Arthur.
Arthur, il a 12 ans. Ah, il y en a plein qui ont 12 ans. Toi aussi, alors?
Abigail.
Abigail, elle a 12 ans. Ah, il y a aussi en haut? Ah ouais. Alors, Mélissa et Hector, c'est juste, hein? Ouais, vous avez 12 ans aussi. Eh ben, dis donc. Alors, vous savez quoi? Jésus, c'est vrai, il a eu 12 ans. Et puis, il a eu 5 ans. Et il a eu 3 ans. Et il a eu 2019 ans, si on veut. Parce que Jésus, il a toujours été là. Et puis, il est encore vivant aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il a tous les âges du monde. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de réponse fausse à cette question. Et ce matin, j'aimerais vous lire une histoire qui nous parle de Jésus quand il avait 12 ans. Cette histoire, elle se trouve dans la Bible, dans un livre qu'un certain Luc a écrit. Je vous la raconte un peu plus augmentée que ce qu'on trouve dans la Bible. C'est l'enfance de Jésus. Et puis, si vous voulez vous tourner vers l'écran, les enfants, vous verrez qu'il y a des images qui vont apparaître. Jésus passa son enfance dans la maison du charpentier Joseph, dans la petite ville de Nazareth. Joseph travaillait dans son atelier, Marie faisait la cuisine de la famille, s'occupait du foyer. Jésus grandissait, il devenait grand et fort. Tout le monde l'aimait, les enfants et les grandes personnes. Il ressemblait aux autres enfants. Il était un garçon comme tous les garçons. Pourtant, il était quand même différent. Il ne faisait jamais rien de mal. C'était un saint enfant, un saint enfant. Cela venait de ce qu'il était le Fils de Dieu. Le Dieu du ciel était son père. Les gens ne le savaient pas. Il pensait que c'était Joseph qui était son père. Chaque année, Joseph et Marie faisaient un voyage. Ils allaient à Jérusalem, où se trouvait le beau temple. Il y avait une grande fête là-bas. On l'appelait la fête de la Pâque. Tous les habitants du pays d'Israël y allaient. Jésus n'avait pas encore eu le droit d'y aller. Il était trop petit jusqu'alors pour faire ce grand voyage. Mais quand il eut 12 ans, il eut pour la première fois la permission d'aller à Jérusalem. C'était un beau voyage, il fallait monter et redescendre des collines et des collines. Beaucoup de gens se rendaient à la fête de la Pâque avec Jésus et ses parents. Tout le monde chantait en marchant. Pour finir, ils arrivèrent sur une haute montagne, d'où l'on apercevait les maisons blanches de Jérusalem. Comme ils étaient heureux! On voyait aussi le temple, blanc comme les maisons, mais avec un toit d'or. C'était le plus beau palais de toute la ville. C'était le palais de Dieu. C'est la maison de mon père, pensa Jésus. Il était tout heureux d'être là. Ils entrèrent dans le beau temple, car c'est là qu'on célébrait la fête. Ils offrirent un sacrifice et prièrent. Jésus aussi pria. Il parla avec son Père du ciel. Il trouvait que c'était merveilleux d'être dans le temple. Il pensait, « Ici, je suis chez moi, c'est la maison de mon père. J'aimerais bien rester toujours ici. » Et il espérait que la fête durerait très longtemps. La fête dura 7 jours. Et quand elle fut terminée, les gens rentrèrent chez eux. Joseph et Marie s'en retournèrent aussi, avec beaucoup de pèlerins. Ils ne voyaient pas Jésus, mais ils n'étaient pas inquiets. Ils pensaient, il est si obéissant et si raisonnable, il ne fait jamais de bêtises. Il marche sûrement devant avec les autres enfants. Nous le verrons bien au cours de route. Ils regardaient de groupe en groupe s'ils le voyaient, mais non, ils ne le voyaient nulle part. Ils demandaient aux autres pèlerins, avez-vous vu notre enfant? Mais non, personne ne savait où il était. C'était déjà le soir et ils ne l'avaient toujours pas trouvé. Alors Joseph et Marie commencèrent à être inquiets. Ils n'osèrent pas continuer leur route vers Nazareth, là où était leur maison. Ils revinrent sur leurs pas. Ils pensaient, mais il est sûrement resté à Jérusalem. Ils parcoururent les rues et cherchèrent partout, mais ils ne le virent nulle part. Marie demandait aux gens, n'avez-vous pas vu un enfant? J'ai perdu mon enfant. Mais les gens secouaient la tête. Ils ne connaissaient pas Jésus. Marie courait de ci, de là, en pleurant. Elle avait tellement peur. Où donc était son enfant? Pourquoi n'était-il pas resté avec elle, lui qui d'habitude était si obéissant, si raisonnable? Ils continuèrent à chercher. Ils cherchèrent Jésus pendant 3 jours, sans le trouver. Enfin, le 3e jour, ils retournèrent au temple. Maintenant, tout était silencieux. Les gens étaient presque tous partis, seuls les prêtres étaient toujours là, ainsi que d'autres, des savants qui parlaient de Dieu aux gens. Soudain, comme Marie regardait autour d'elle, elle aperçut Jésus. Son enfant était assis, paisiblement, au milieu des grands savants. Il écoutait ce qu'ils disaient et leur posait toutes sortes de questions. Ils étaient tous dans l'admiration, car il n'avait encore jamais vu un garçon aussi intelligent et capable de répondre aussi bien. Marie se précipita vers lui. « Mon enfant, dit-elle, pourquoi es-tu resté ici? Ton père et moi, nous étions très inquiets. Nous t'avons cherché partout. »« Ton père et moi, avait dit Marie. Dieu n'était-il donc pas le père de Jésus? Jésus répondit, « Mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois rester dans la maison de mon père ? » Alors Marie comprit que Jésus n'avait pas été désobéissant. Elle s'était trop inquiétée. Ce n'était pas de la faute de Jésus, c'était sa faute à elle, car elle avait oublié que Dieu était son père. Ils retournèrent à la maison et Jésus les suivit docilement. Ils arrivèrent à Nazareth. Jésus habita là avec Joseph et Marie jusqu'à ce qu'il fût devenu grand. Chaque année, il allait avec eux à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais Marie n'était plus inquiète à son sujet. Et la dernière phrase de cette histoire dit Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Jésus n'est pas vraiment un enfant comme les autres. Bien sûr, il ressemble aux autres, mais il est différent. Il n'est pas comme aucun de vous, les enfants qui êtes là parmi nous ce matin. C'est un modèle pour nous. Puis l'histoire, elle continue dans la Bible. Après, on découvre des histoires où Jésus, il est grand, il est adulte. Alors, il a l'âge de vos parents, il a peut-être 34 ans, ou peut-être 28, 29, 30. Il est plus grand, plus âgé. Et puis là aussi, il n'est pas comme aucun d'entre nous, nous tous qui sommes assis dans cette salle. Il est différent de nous. C'est un modèle. Et c'est un modèle qui n'est pas écrasant. Je crois que c'est un modèle qui est inspirant, qui nous inspire. Il nous inspire en tant qu'enfant, sur notre manière de vivre les choses. Il nous inspire en tant qu'adulte aussi, sur notre manière de vivre les choses. Et comment est-ce qu'on peut être inspiré d'un modèle? C'est en apprenant à le connaître bien. Alors c'est pour ça qu'on célèbre ce culte de rentrée ce matin. Parce qu'on est heureux de recommencer une année où vous allez pouvoir aller à la garderie, aux explorateurs, au KPJ, au KT. Et puis nous, les adultes, on va pouvoir être là, au culte, pour découvrir encore plus d'histoires de la Bible, des histoires sur Jésus, et découvrir comment ce modèle il peut nous inspirer, nous aussi, dans notre croissance de foi. Alors aujourd'hui, je voudrais simplement vous proposer, dans cette première partie du culte, après on va se séparer, les enfants et les parents vont se rendre ailleurs, mais dans cette première partie de culte où on est tous ensemble, vous avez vu que vous avez un petit mot ou un petit papier vide sur votre chaise. Alors, regardez encore une fois ce verset qui est indiqué ici. Jésus grandissait. Ouais, les enfants, si vous n'êtes pas à votre chaise, vous pouvez aller chercher un petit papier. Il y a encore des chaises vides, vous pouvez vous les faire passer. Et ce verset dit, Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Alors moi, je me pose une question en lisant ce verset. Puisque Jésus est notre modèle et qu'il est agréable aux dieux et aux hommes, moi, je me suis demandé, mais au fond, suis-je agréable? Tu peux passer la prochaine. Suis-je agréable? Alors, vous avez probablement une réponse à cette question. Oui, super, c'est parfait. Moi aussi, j'ai une réponse à cette question. Oui, chacun d'entre vous, je vous connais, vous êtes agréable. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'en vous, il y a quelque chose d'agréable? Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes doux, patient, souriant, tourné vers les autres, vous aimez bien écouter, vous aimez construire des choses, vous êtes créatif. Il y a plein de choses qui font que chacun d'entre vous, vous êtes agréable à Dieu et agréable aux autres. Alors réfléchissez à quelle est cette chose-là. Puis il y a peut-être une chose aussi, vous savez, ça c'est peut-être pas la chose la plus agréable en moi. Je le sais, je travaille sur moi, je sais que je dois corriger ça. Et je crois que la Bible, elle nous appelle toujours à ça, à découvrir ce que Dieu a placé en nous, d'agréable, et à essayer d'améliorer ce qui nous satisfait un petit peu moins. Alors ce papier, il a deux faces, hein, une face où ça sera la face des choses agréables en vous, et l'autre, où ce sont les choses peut-être un peu moins agréables. Il n'y a pas de stylo, c'est volontaire, parce que je ne veux pas forcément que vous les notiez dessus. C'est pour vous, vous le savez, d'un côté c'est agréable, de l'autre côté un peu moins. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est de prendre juste 10 secondes pour y réfléchir, et puis de venir les déposer dans un vase que j'ai pris là, comme symboliquement pour remettre à cette entrée de programme, cette entrée d'année, nos choses devant Dieu. Les choses agréables, on le remercie parce qu'elles sont là. Les choses qu'on veut un petit peu changer, on lui demande son aide pour y arriver. Comme on est très nombreux, je crois que c'est que les enfants qui vont venir déposer tous nos papiers. Si vous êtes d'accord de m'aider les enfants, vous pouvez passer dans les rangs et récolter tous ces papiers de tous les autres, les adultes aussi, puis vous les déposer dans ce vase, symboliquement. Tu peux déjà déposer ton papier si tu as envie. Puis si tu es d'accord, tu peux aller en ramasser d'autres dans les rangs, des adultes. Non, pas avec le vase, juste avec tes mains, puis tu les ramènes dans le vase. Et voilà, on se place devant Dieu en ce début d'année.
Moi, je vais déjà déposer le mien.
Très bonne idée. Tu veux m'aider aussi à ramasser des petits papiers?
Tiens, pour ton
enfant. Magnifique. Super. Merci. Magnifique. Ouais, bravo. Superbe. Il y en a encore quelques-uns qui arrivent là-bas. Magnifique. Alors voilà, dans ce vase se trouve tout ce que nous avons, que nous plaçons devant Dieu. Magnifique. Superbe. Super, merci. Voilà, nous plaçons devant Dieu ce matin nos dons, nos qualités. Nous plaçons devant Dieu aussi, nous nous plaçons devant Dieu tel que nous sommes, avec nos propres choses que nous voulons améliorer. C'est comme ça qu'on veut commencer l'année, pour se laisser inspirer par Jésus, qui progressait en sagesse et qui était agréable devant Dieu et devant les hommes. Et c'est aussi un verset que j'aimerais nous offrir à chacun d'entre nous pour débuter cette nouvelle année de culte, que nous puissions aussi progresser ensemble, chacun dans nos groupes d'enfance ou le dimanche au culte, pour devenir agréable devant Dieu et devant les hommes. Voilà, alors on se retrouve un petit peu entre nous. C'est que vous avez des enfants assez grands ou, ou que vous êtes au culte sans enfants. Alors, on va continuer un petit peu à réfléchir à ce passage que j'ai lu tout à l'heure, un peu agrémenté pour que ce soit intéressant pour les enfants et que ça les captive, mais qui suit quand même le texte de la Bible. Et puis, on va réfléchir qu'est-ce qui nous apporte pour nous, finalement. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Vous avez participé avec ces papiers, hein, des choses agréables et moins. Mais qu'est-ce que Jésus nous apprend dans ce texte, finalement, qui nous permet d'avancer encore un petit peu ensemble. Il y a deux choses que je trouve, personnellement, qui m'ont frappée quand j'ai relu ce texte et que je l'ai travaillé, médité. J'aimerais vous les partager. La première, c'est que il y a une sagesse qui étonne dans le texte. Et en fait, quand on lit le texte, à plusieurs reprises, on s'étonne de ce qui se passe. On s'étonne parce que Jésus, il est présenté comme un enfant parfait, mais en même temps, il agit comme un adulte. On s'étonne parce que les parents, ils ont l'air remplis d'affection pour leur enfant, mais ils sont capables de l'oublier à Jérusalem et de faire une journée de route sans se rendre compte que, sans vraiment se préoccuper d'aller chercher où est l'enfant. On s'étonne parce que quand Jésus répond, on dirait que ses parents ne comprennent pas, et puis lui-même ne comprend pas pourquoi ses parents s'inquiètent, donc il y a une sorte d'incompréhension dans le dialogue, on dirait qu'il communique à deux niveaux différents, et toutes ces choses-là, elles nous étonnent. Mais la Bible, elle ne présente pas ces choses-là comme étonnantes, elle ne dit pas ça c'est étonnant, mais elle dit qu'il y a autre chose d'étonnant dans ce texte. Autre chose qui nous a peut-être moins frappés, parce que nous, on a été frappés par nos propres décalages culturels, nos propres réactions sur le texte. Mais ce que la Bible elle annonce comme étonnant, c'est d'une part la manière dont Jésus répond aux maîtres de la loi qui les étonne ou les émerveille. Ça, c'est étonnant. La manière dont Jésus il reste dans le temple et il discute et il répond avec les maîtres de la loi, ça, nous dit la Bible, ça, c'est étonnant. Et l'autre chose que la Bible qualifie d'étonnant, c'est le fait que Jésus se trouve au temple, que c'est là que ses parents le retrouvent. Ils le cherchent partout dans la ville, ils le cherchent probablement peut-être là où ils avaient de la parenté, ou bien là où ils sont allés manger ensemble, là où ils sont allés se promener, où ils sont allés acheter quelque chose, dans les lieux connus. Mais ils vont seulement au bout du troisième jour au temple, et c'est là qu'ils s'étonnent que Jésus est au temple. Alors Jésus, finalement, il est étonnant lorsqu'il est question des choses qui concernent son père ou le royaume. C'est là que son attitude ou ses réponses sont étonnantes. Sa sagesse, elle étonne, parce qu'il connaît des choses sur Dieu, sur son père, sur le royaume, qui dépassent ce que les gens savaient. Et sa manière de vivre la relation à son père céleste étonne, parce que pour lui, c'est tout à fait normal de rester dans la maison de son père encore 3 jours, et lui non plus, il ne s'est pas tellement préoccupé apparemment de savoir où étaient ses parents terrestres. C'est ça qui est étonnant, selon la Bible. Et c'est sur ça que la Bible nous invite à mettre l'accent, à porter notre réflexion. Sur ce paradoxe entre un enfant qui est 100% Dieu et 100% humain. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est ce qui se passe dans cette histoire-là. Mais si on continue l'évangile de Luc, on voit qu'il y a d'autres choses qui sont étonnantes dans la vie de Jésus. Je vous lis 2 versets. Le premier, en Luc 4, 22, alors que Jésus il parle, il fait des explications, des discours, aucun des auditeurs de Jésus ne restait indifférent. Le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. Aussi, disait-il, n'est-il pas le fils de Joseph ? Encore une fois, ce paradoxe chez les gens, mais c'est un enfant humain, c'est le fils d'un homme qu'on connaît, c'est le fils d'une femme qu'on connaît. Comment ça se fait qu'il ait un message aussi étonnant, un message divin finalement ? Et puis un autre verset qui nous parle d'étonnement, un peu plus loin aussi dans l'évangile de Luc, à la suite du moment où Jésus guérit le paralytique qui a été passé par le toit, par ses 4 amis, vous vous souvenez de cette histoire ? Alors on a ce verset-là, 5-26, les témoins de la scène furent tous saisis de stupéfaction, d'étonnement. Ils rendaient gloire à Dieu et remplis de crainte, disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires ». Encore une fois, des choses étonnantes. Dans la manière dont Jésus répond, ses enseignements, ou dans la manière dont Jésus agit, ses guérisons qui dépassent ce qu'il y a de terrestre et ce qui est compréhensible pour nous. Tout ça est étonnant chez Jésus. Alors pourquoi ça étonne ses contemporains de l'époque? Probablement parce que Jésus, il aborde les choses différemment. Il aborde les choses sous l'angle du royaume. Lui, il voit peut-être pas un paralytique malheureux ou qui a une vie difficile, mais il voit peut-être une occasion de montrer le royaume. Il voit peut-être pas une dispute ou une discussion un peu échaudée, mais une occasion d'expliquer des choses qui concernent le royaume. Ce qui étonne aussi, c'est qu'il vit une spiritualité différente. Il est en relation directe avec son père. Il prend le temps de parler, il reste dans la maison de son père quand il a 12 ans, alors que les personnes de l'époque font des rituels pour entrer en relation avec Dieu, pour recevoir le pardon, pour garder cette relation paisible. Et puis, il se préoccupe de sujets différents que les autres. Je disais tout à l'heure, il ne voit peut-être pas ce paralytique qui est malheureux, mais en fait, oui, il le voit aussi, il s'en préoccupe. Il se préoccupe de ceux qui sont malades, qui sont laissés pour compte. Il se préoccupe de ceux qui ont besoin de grâce, de guérison, de comprendre le message du royaume. Alors que les gens de l'époque ont d'autres préoccupations. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui nous en parlent aussi, de l'hypocrisie des pharisiens, de ceux qui se préoccupent plus du regard des hommes que du regard de Dieu. D'un certain point de vue, je trouve que c'est triste et c'est dommage que ces textes-là ils nous soient présentés comme étonnants. Ça veut dire que les gens à l'époque, ils n'avaient vraiment pas compris qui était Jésus. Ils s'étonnaient de ce qu'il faisait, ils s'étonnaient de ce qu'il disait. Ils n'avaient vraiment pas compris qui était Jésus. Et même ses parents à l'époque, on l'a vu dans notre histoire, ils s'étonnent de la réaction de Jésus. Ils s'étonnent qu'il reste au temple, ils s'étonnent qu'il sache répondre avec sagesse. Mais en fait, c'est triste. Ça signifie qu'ils n'ont pas encore compris qui était Jésus, qui était leur propre enfant. Et moi, je crois qu'on ne comprend pas beaucoup mieux qu'eux non plus. On est toujours dans ce cheminement, on essaye de comprendre. Et on se laisse étonner parce qu'un miracle nous arrive, parce qu'une réponse est reçue, parce qu'on rencontre quelqu'un, parce qu'un verset de la Bible nous parle particulièrement. Toutes ces choses-là, elles nous étonnent parce qu'elles sortent de notre quotidien habituel, elles sortent de notre contexte habituel, parce qu'on a notre contexte aussi terrestre. Et ça, pour moi, ça montre qu'en fait, on a besoin de grandir encore. On a besoin de croître. Et c'est la deuxième chose qui sort de ce texte que j'aimerais vous partager. C'est cette croissance que nous propose Jésus. Une croissance complète. Ah oui, je voulais relire avec vous ce verset qu'on a lu. Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Ce verset, il ne nous parle pas d'une croissance numérique ou physique. Enfin, dans le sens où il ne nous parle pas de multiples conversions, de l'Église qui grandit, du peuple de Dieu qui grandit. Il nous parle seulement d'une croissance personnelle, celle de Jésus. Et cette croissance, elle a plusieurs dimensions. On va y revenir tout à l'heure. Il y a d'autres traductions qui nous aident peut-être à lire différemment ce verset, ou peut-être qu'on connaît mieux, qui dit « Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. » Trois choses, la sagesse, la stature et la grâce. Ça nous amène à une croissance qui est complète. Elle est à la fois physique et spirituelle chez Jésus. Il grandit en stature, donc physiquement, dans son corps, il a 12 ans puis il devient un adulte. Et il grandit aussi en grâce auprès de Dieu, en sagesse, donc il y a une croissance autre, intérieure, spirituelle qui a lieu. Et puis la fin du verset nous dit « auprès de Dieu » ou « devant Dieu » et « devant les hommes, les femmes, devant les humains ». Donc elle est complète aussi parce qu'elle se fait à la fois devant Dieu et à la fois devant les humains. Et cette slide, à elle toute seule, je crois, est un programme pour toute l'année ou un programme pour toute notre vie, d'arriver à cette croissance qui soit à la fois physique, mature et spirituelle, et qui soit une croissance pas seulement devant nos contemporains, mais aussi devant Dieu, et pas seulement devant Dieu, mais aussi devant nos contemporains. Il y a beaucoup de choses à tirer de là. Cette croissance complète, moi, je trouve qu'elle est aussi complexe. Elle n'est pas seulement complète, elle est complexe. Pour Jésus et pour nous. Dans l'histoire de Jésus, on voit que cette croissance, elle est complexe parce qu'elle se retrouve tout à coup en confrontation avec ses parents, en l'occurrence, et puis plus tard avec tous ses contemporains, avec les chefs, les maîtres de la loi, avec les gens qui l'écoutent et qui assistent à ses miracles. Il est sans cesse en confrontation. Même ses disciples ont du mal à le comprendre parfois. Ça crée de l'inquiétude chez ses parents. Et je crois que dans nos vies aussi, on peut s'y retrouver, selon notre histoire, selon notre cercle familial, selon notre cercle professionnel, nos voisins, nos amis. Parfois, notre croissance de foi, elle entre aussi en confrontation. On peut être en confrontation avec nos proches. Ça peut aller même jusqu'au conflit, ça peut aller même jusqu'à des déchirures dans la famille, parmi les amis, parmi les voisins. Et ça, c'est ni plus ni moins semblable à ce que Jésus a vécu d'une certaine manière. Mais l'objectif de Jésus dans son histoire, c'est pas d'aller au conflit. Quand ses parents viennent le chercher, le réprimandent un petit peu, il s'énerve pas comme pourrait le faire un bon adolescent de 12 ans aujourd'hui. Il se révolte pas, il met pas son baluchon sur l'épaule et puis il se casse, comme on dit, quand on est jeune, comme moi. Je veux encore y croire. Mais il essaye d'expliquer à leurs parents, à ses parents. Il essaye d'expliquer pourquoi il est resté là. Il essaye en fait de renouer quand même la relation. Et puis en fait, le texte nous dit qu'il rentre avec ses parents, qu'il est obéissant et continue de grandir dans l'obéissance de ses parents. Alors peut-être que ça nous apprend quelque chose aussi dans nos propres confrontations, conflits de foi. Quel est notre objectif final et comment on essaye d'y parvenir à cet objectif final, de ne pas aller au conflit, mais d'essayer de garder la relation. Et puis en gardant la relation, on permet à l'autre de grandir aussi. En l'occurrence, c'est le cas pour Jésus. En expliquant ce qui s'est passé, en rentrant avec ses parents, il a permis à ses parents de grandir, de mieux comprendre ce qui se passait. Et la Bible nous dit que Marie, elle a gardé ces choses dans sa tête. Elle a continué de penser à ces choses-là. Donc ça a continué de la nourrir et de la faire grandir elle-même dans sa foi, dans sa compréhension de qui était Jésus. Et puis, même si c'est un risque de confrontation, alors on pourrait se dire « Ah bah c'est risqué, c'est trop dangereux, le but c'est pas d'entrer en conflit, donc je garde ma foi pour moi, je la fais pas trop grandir et puis je la cache. » Mais non, parce que Dieu nous appelle à grandir. C'est un appel de Dieu, la croissance, qu'elle soit complète et complexe. Et dans toute la Bible, c'est le cas. Dès la Genèse, des premiers versets, c'est « Croissez, multipliez-vous et remplissez la terre ». Donc il y a un appel à grandir, pour cette fois-là, numériquement, physiquement, à faire un grand peuple de Dieu, une grande église sur toute la terre. Et puis dans toute la Bible, c'est présent aussi, les disciples ont un appel à aller dans toutes les nations, faire des disciples, faire grandir le peuple de Dieu. Et puis la croissance, elle est aussi intérieure, elle est aussi spirituelle. Paul nous appelle à de nombreuses reprises à ne plus avoir seulement du lait, mais à avoir de la nourriture solide, donc à faire grandir notre foi, à nous nourrir de quelque chose de plus en plus solide et consistant. Alors, je ne vais pas trop loin dans tous ces versets, parce qu'en fait, on va les voir dans les 6 prochaines prédications pour essayer de comprendre un peu quelle est l'image globale de la Bible sur la croissance et comment ça nous aide dans notre Église. Pour nous, aujourd'hui, je voudrais simplement qu'on s'arrête là. Je vous ai posé la question tout à l'heure, enfin je vous ai proposé de vous poser la question, suis-je agréable ? Ça vous a fait rigoler, parce que c'est une question qu'on ne pose pas, parce qu'on n'ose pas dire non, mais on n'ose pas trop dire oui non plus. Alors c'est une question qu'on garde pour soi. Suis-je agréable ? Rappelez-vous ce que vous avez mis sur chaque face des papiers que vous avez déposés ici. Pourquoi ? Vous pensez que vous êtes agréable, ou on vous a fait savoir que vous étiez agréable ? Pourquoi vous pensez qu'il y a certains aspects qui peuvent encore être améliorés, ou on vous a fait savoir que certains aspects pouvaient être améliorés ? Peut-être c'est lié à votre foi, la manière de vivre votre foi. Peut-être c'est lié à votre personne, votre attitude, votre caractère, votre situation de vie. Dans tous les cas, ce sont toutes des choses qu'on a voulu déposer devant Dieu et qu'on veut garder aussi dans notre cœur en nous laissant inspirer par ce verset de Jésus, par cette histoire de Jésus qui grandit aussi. Et avec ces versets, je vous propose 2 étapes en ce début d'année. La première, je les ai rapidement évoquées tout à l'heure, c'est d'être reconnaissant, que ça nous invite à la reconnaissance pour ce que Dieu a déposé en nous. Toutes les choses que vous pensez être agréables en vous, elles ont été déposées par Dieu en vous, c'est des cadeaux de Dieu en vous qui permettent de faire connaître qui il est, qui permettent de révéler son amour, sa paix, son écoute, sa patience autour de vous. Elles servent de témoignage. Et puis je crois aussi que toutes ces choses-là agréables, elles grandissent parce qu'on se retrouve ici tous les dimanches matins et qu'on essaye de les faire grandir ensemble. Et moi, je suis personnellement très reconnaissante ce matin de la communauté, de notre Église, de pouvoir vous retrouver tous les dimanches matins, ouvrir la Bible ensemble et découvrir ensemble où Dieu veut nous mener. Et on ne sait pas trop en fait où Dieu veut nous mener avec cette croissance. On arrive à certaines limites de la taille de nos locaux, tout simplement, de nos chaises, des salles pour l'enfance. On ne sait pas trop où Dieu va nous mener, mais je crois que le fait que vous êtes chacun agréable, d'une manière ou d'une autre, permet à notre Église de grandir et nous permet les uns aux autres de grandir en étant confrontés les uns aux autres. Et puis la deuxième chose, cette agréabilité, je ne sais pas si le mot existe, sinon je l'invente, nous invite à la croissance. Parce que justement, ça nous permet de grandir les uns avec les autres, ça nous permet de grandir en tant qu'Église aussi numériquement, d'accueillir, d'être accueillant, etc., etc. La manière dont Jésus se montre agréable envers Dieu, envers les autres, ça le lie inévitablement au royaume, ça l'associe au royaume, ça l'associe à Dieu. Quand les gens s'étonnent, c'est parce qu'ils voient quelque chose de différent et à travers Jésus, ils voient Dieu. Moi, je prie que ce que nous vivons, notre croissance, notre agréabilité, soit comme pour Jésus, une manière pour les gens de voir le royaume, de voir le Père céleste, notre Père céleste, que ce soit ici dans notre Église ou dans notre vie de tous les jours, dans notre propre contexte. Alors je suis agréable pour révéler le royaume. Un mot d'ordre, le premier peut-être de cette série sur la croissance, grandir en devenant agréable à Dieu, agréable aux autres, agréable aux hommes et aux femmes, à tel point que j'espère, c'est ma prière, dans les mois qui viennent, les années qui viennent, on puisse réutiliser ce dernier verset de l'histoire de Jésus en mettant notre propre nom, même si on est toujours en cheminement. Et je vous laisse ce verset-là avec l'espace, vous pouvez mettre votre nom à chacun d'entre vous. Grandissait et progressait en sagesse, et il, elle, se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes et aux femmes. Un peu comme si c'était la vision que les gens ont. Alors j'ai mis la côte, édition du 25 août 2019. Qu'on puisse reporter ça de nous, chacun d'entre nous, de nous en tant qu'Église. C'est notre prière, un peu voilà, un message d'encouragement pour recommencer cette année ensemble, apprendre à grandir ensemble dans la sagesse, la stature et la grâce, comme le dit une autre version de ce verset. Alors j'aimerais prier pour nous et puis ensuite on va poursuivre, je crois, avec un, un temps de louange pour nous associer dans la louange de notre Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci parce que tu as eu 12 ans. Merci parce que tu as vécu des étapes de vie qui sont les mêmes que les nôtres. Et ainsi, à chaque étape de notre vie, on peut se tourner vers toi, nous tourner vers toi et chercher en toi un modèle que tu nous offres volontiers dans les pages de la Bible, mais que tu nous offres aussi volontiers dans la prière, dans notre relation avec toi, avec notre Père. Merci pour ce modèle que tu nous donnes d'un personnage qui est étonnant, qui étonne les autres et qui grandit aussi, qui n'est pas arrivé tout fait, tout préparé, tout mature, mais qui a dû aussi passer par cette croissance que nous vivons. On veut te prier, Seigneur, pour chacun d'entre nous, aussi tous les enfants et leurs parents qui sont déjà sortis de la salle, te prier, Seigneur, que tu nous permettes, chacun d'entre nous, de grandir dans notre foi, de grandir dans notre témoignage du royaume, de grandir dans notre relation à la communauté, de grandir dans notre relation à toi. J'aimerais prier aussi que tu nous bénisses en tant qu'Église dans ce temps de croissance, que tu nous permettes de découvrir où tu veux nous emmener avec cette croissance et comment la faire encore fructifier, comment la préserver, comment faire en sorte que cette croissance soit une source de bénédiction pour notre Église, pour nos familles, pour nos voisins, pour nos amis, pour notre ville aussi. Nous te remettons toutes ces choses, Seigneur, nous te remettons aussi les papiers que nous avons déposés devant toi symboliquement, pour te demander de nous aider encore à grandir et à devenir agréable à toi et aux hommes et aux femmes qui nous entourent. Bénis chacun d'entre nous, ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, mais qui s'associent à nous dans la prière, et tous ceux qui sont rassemblés ce matin pour te louer et grandir avec toi. Amen.